Le magazine des Nations Unies.
$920 millions américains alloués en 10 ans au fonds humanitaire pour la RDC avec à la clé 1250 projets mis en œuvre. Au sein du bureau de la coordination des affaires humanitaires se frotte les mains mais dit rester attentif pour mieux faire. C'est l'actualité de ce magazine. La MONUSCO n'a pas pour vocation de mettre à la disposition des individus des gardes de corps, mais dans le cadre de la résolution 2277, elle a l'obligation de protéger les civils. Allusion faite à l'affaire Moïse Katumbi et à sa protection, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU l'a souligné mercredi dernier à Lubumbashi. David Gressler a été relayé à Kinshasa par le porte-parole intérimaire de la MONUSCO. Des lampes solaires aux réfugiés centrafricains de Bili et de Inkié dans le nord Ubangi, un don du gouvernement japonais. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon a effectué une mission sur place la semaine dernière. Il est l'invité de ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour. Le Fonds humanitaire pour la RDC accomplit ses 10 ans d'existence. De 2006 à 2016, 11 pays donateurs ont fourni au total $920 millions américains. Monsieur Alain Dekou, chef de la section financement humanitaire au bureau OCHA RDC, a brossé le bilan de ces 10 années, un bilan qu'il juge positif. DTT avec Honoré Missenga Kalala.
C'est à l'initiative du coordonnateur humanitaire de l'époque, Monsieur Ross Montaigne, que le Fonds humanitaire a été mis en place en 2006. Comme nouveau mécanisme de financement devant permettre la mise en œuvre d'une réponse urgente adaptée au contexte local congolais. Et selon M. Alain Dekou, en 10 ans, l'expérience a été une réussite. $920 millions ont dû être mobilisés, dont $900 millions alloués à 1250 projets. Résultat de la mise en œuvre de ces projets, 1500 salles de classe et près de 200 000 latrines construites. Plus de 4400 km de routes réhabilitées et plus de 7 300 000 enfants vaccinés, soit un total cumulé de plus de 60 millions de bénéficiaires assistés par le Fonds humanitaire de 2006 à 2016. De quoi se frotter les mains au sein de la communauté humanitaire œuvrant en RDC. Toutefois, pour M. Dekou, celle-ci reste attentive. Il faut améliorer les réponses humanitaires dans le pays, à travers notamment l'amélioration de la qualité des projets, la mobilisation des ressources, le renforcement de la coordination aux différentes étapes et à différents niveaux, mais aussi et surtout la redevabilité auprès des bénéficiaires des projets. Un clin d'œil aux contributeurs du Fonds humanitaire, spécialement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et à la Suède. À eux trois, ces pays ont contribué pour 80% du Fonds humanitaire.
De l'humanitaire, passons à la politique. La MONUSCO n'a pas pour vocation de mettre à la disposition des individus des gardes de corps, mais dans le cadre de la résolution 2277, la priorité de son mandat est de protéger les civils. Le représentant spécial adjoint, M. David Gressler, l'a rappelé à Lubumbashi mercredi dernier, à la suite de l'affaire Moïse Katumbi. Et David Gressler a été relayé à Kinshasa par le porte-parole intérimaire de la MONUSCO au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa, le même mercredi. Encore avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Le représentant spécial adjoint venait d'arriver mercredi matin à Lubumbashi en provenance de Goma. Répondant à la presse, David Gressler a vite fait de dissiper le malentendu autour de l'affaire Moïse Katumbi concernant sa protection. Nous avons un mandat pour la protection des civils contre la violence. Quand il y a un problème qui se pose, comme on voit maintenant des civils qui sont menacés, on a l'obligation avec les autorités congolaises de répondre à ces menaces, a-t-il rappelé. Alors, concernant la protection individuelle, le message du représentant spécial adjoint a été formel.
Mais on ne peut pas servir comme un garde-corps pour les individus. Ça reste toujours la responsabilité de l'État. De notre côté, on doit respecter le mandat qu'on a reçu du Conseil de sécurité et on va continuer de travailler dans cette manière.
Ces précisions données, le numéro 2 de la MONUSCO a par ailleurs démenti les allégations faisant état de la suspension ou du renvoi du commissaire de la police des Nations Unies et du chef du bureau MONUSCO Lubumbashi. Un démenti relayé au même moment à Kinshasa au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies par le directeur de l'information publique et porte-parole intérimaire, Charles-Antoine Bambara.
Je peux vous dire avec beaucoup de certitude que le commissaire général Awale Abdelkader Abdou Nasir est en poste à Lubumbashi à l'heure actuelle et dirige les opérations de la MONUSCO à ce niveau. Je peux vous dire également que le chef du bureau MONUSCO de Lubumbashi, qui était en voyage de travail à Goma, est de retour ce matin même avec Monsieur David Grézelé à Lubumbashi. Je peux vous confirmer aujourd'hui que ces deux collègues de la MONUSCO sont toujours en poste à Lubumbashi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La Fédération des associations du personnel des Nations Unies RDC, FUNSU en sigle, a été mise en place en 2007. Son nouveau président élu, Dr Léon Kinoani, un staff de l'OMS, parle dans l'entretien que vous allez suivre d'un projet relatif à la construction d'une cité moderne dans la périphérie est de la ville de Kinshasa au profit des agents du système des Nations Unies. Il appelle tous ses agents à contribuer à la matérialisation de ce projet pour leur propre sécurité sociale. Dr Kinoani s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Docteur Kinoani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un fonctionnaire du bureau de l'OMS RDC et en même temps président de la FUNSU. FUNSU, c'est une intersyndicale des agences des Nations Unies en République démocratique du Congo. Brossez-nous en quelques mots un peu l'historique de cette organisation, son fonctionnement et ses objectifs.
Merci beaucoup de la question. Effectivement, nous sommes élus presque un mois bientôt. Il faut dire qu'avant 2007, il n'existait pas encore de fédération des associations du personnel des institutions des Nations Unies à RDC. Donc, à ce moment-là, toutes les agences avaient leurs associations du personnel et agissaient de manière différente. Et donc, il manquait quand même quelque chose de coordination parce que quand vous regardez l'organisation du travail au niveau des Nations Unies, il existe ce qu'on appelle la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux basée à Genève et donc qui se trouve comme l'agence ou l'institution qui coordonne plus ou moins le travail des agents qui sont impliqués dans les systèmes des Nations Unies. Donc il y avait, je dois dire, un vide. Cette agence internationale manquait d'interlocuteurs parce qu'à ce moment-là, pour aborder une question du personnel, il fallait s'adresser à chaque agence, ce qui était très fastidieux. Donc en 2007, j'étais encore là, président de l'association du personnel de l'OMS et les autres collègues de la MONUSCO, de l'UNICEF, du PAM et tout ça, on s'est convenu de mettre sur pied cette fédération. Et donc, elle a eu ses premières lettres de noblesse en 2007.
Donc, la MONUSCO aussi fait partie de cette
organisation. Oui, on parle des institutions des Nations Unies. Et la MONUSCO, c'est une institution des Nations Unies. Alors, et d'ailleurs, pour votre information, le premier président de la FUSU, il était bien de la MONUSCO.
Docteur Léon Kinoani, au moment de votre prise de fonction, vous avez révélé la feuille de route de votre mandat parmi vos priorités. Vous avez évoqué notamment le projet de construction d'une cité moderne dénommée Cité des Nations Unies. Comment entendez-vous concrètement réaliser ce projet?
En ce qui concerne la Cité des Nations Unies, effectivement, elle émerge dans notre programme parce que si vous voyez actuellement, il y a déjà des initiatives qui sont très avancées du point de vue de chacune des agences des Nations Unies. Nous avons au plateau de Bateke ou à Lancélé trois blocs d'initiatives qui se développent déjà bien. Vous avez le site de Jivel, Jules Valenquer, où vous avez plus ou moins six agences des Nations Unies qui sont déjà implantées dans ces sites-là. Notamment le ACER, l'UNICEF, le PAM, FAO, OCHA, ONU SIDA et même INOPS qui sont déjà dans le processus, enfin qui ont déjà acquis de sites, de terrains, qui ont déjà acheté. Et maintenant les démarches sont très avancées par rapport à ça. Et puis vous avez le deuxième bloc de Kimpoko, par exemple vous avez le PNUD, l'UNFPA, vous avez l'INOPS et puis vous avez le troisième bloc qui est l'OMS, qui a également un site au niveau de l'ANCELI. Donc, ce que nous voulons faire, c'est que, par exemple, le site de Jivel va être considéré comme le site de base où nous allons avoir une grande cité des Nations Unies et qui aura des blocs un peu comme de sites secondaires, notamment à Kimpoko et aussi de l'OMS. Donc, toutes ces cités auront une connexion sécuritaire, sociale, etc. Et donc, c'est cette image-là. Mais je crois que les choses sont très avancées tous les récipiendaires des sites ont déjà pratiquement leur titre foncier. Et donc, ce qui nous reste maintenant, c'est de coordonner pour que, au moment de la construction, au moment de l'urbanisation de ces sites, qu'il y ait une interconnexion. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Kwilungongo, au Congo central. On a des postes, par exemple, d'une même grande cité de Kwilungongo, mais avec plusieurs postes, et ces postes sont coordonnés. Donc, c'est la même image que nous voulons avoir de la cité des Nations Unies à Lancélé.
Et par rapport à ce projet, est-ce que vous avez un message adressé à tous vos collègues des agences des Nations Unies, de la MONUSCO, en fait, de toutes les agences?
Merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question. Ce que nous voulons, c'est que les staffs des Nations Unies doivent se soucier du demain. C'est maintenant qu'ils sont en activité qu'ils doivent contribuer. Je crois une des parcelles de 20 mètres sur 30, la plus chère, c'est aux alentours de 1300. Les prix ne sont pas très exorbitants. Ce que nous demandons, c'est que chaque membre du staff, qu'il soit à l'intérieur du pays, qu'il soit à Kinshasa, qu'il puisse contacter son agence pour payer ce qu'on demande, de manière à avoir les titres fonciers. C'est très important pour la progéniture et aussi pour sa propre sécurité sociale.
Si je comprends bien, le site est sollicité d'abord par l'agence.
Oui, le site est sollicité par l'agence qui l'achète auprès des propriétaires. Et puis maintenant, les agences maintenant essayent de solliciter à ce que chaque membre du staff de l'agence paye ses contributions. Une fois que vous avez honoré vos contributions, on vous donne les titres. Les restes des démarches pour chercher la banque, pour chercher l'entreprise qui va construire, ça c'est l'association qui fait ça en collaboration avec la fédération. Okapi, c'est notre radio aussi. Vous êtes partenaire de la FONSU. Il faut essayer d'amplifier les activités que nous menons ici parce que vous êtes la seule voix qui puisse nous permettre d'avoir écho de ce qui se passe à Kinshasa au niveau de l'intérieur du pays.
Docteur Yon Kinoani, merci de votre disponibilité.
Merci à vous aussi.
Enfants, dont 151 garçons et 25 filles, ont été victimes de violations graves de leurs droits fondamentaux dans le contexte du conflit armé qui prévaut en RD Congo pour le seul mois d'avril 2016, relève la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Selon la même source, 81% des violations commises contre les enfants sont des cas de recrutement et d'utilisation des enfants par les groupes armés. 15 fillettes ont été victimes de violences sexuelles dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, de l'Ituri et de Tanganyika. Sécurité maintenant dans le territoire de Beni. Les équipes conjointes pour la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre l'insécurité ont poursuivi durant une semaine leur patrouille régulière de sécurisation. Résultat, 172 appels reçus sur les numéros verts, 45 interventions et 13 interpellations, dont un présumé milicien. Restons toujours à Beni pour parler de la session de formation et de recyclage en maintien et rétablissement de l'ordre public et en gestes techniques d'intervention au profit de 115 cadres et agents de la police nationale congolaise. Formation assurée le 9 mai dernier par 3 formateurs de l'UNPOL et 2 de la police nationale congolaise. La cérémonie s'est tenue au camp de l'unité de police constituée de l'Inde dans la ville de Beni.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Les réfugiés centrafricains sont bien traités et bénéficient de l'hospitalité des populations congolaises, constat du chargé d'affaires intérimaire de l'ambassade du Japon après une mission au camp d'Inkié et de Bili dans le nord Ubangi où il a remis un lot important de lampes solaires dont du gouvernement japonais. Le Japon est l'un des donateurs qui contribue aux opérations humanitaires du HR en RDC. Monsieur Jishu Mogushi répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Suji Nobushi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'affaires à l'ambassade du Japon en RDC. Vous venez d'effectuer une mission au nord Ubangi.
Oui.
Quel a été l'objet de cette mission?
Oui, l'objet de ma mission se constitue en deux points. Premièrement, au nord Ubangi, il y a plusieurs camps de réfugiés centrafricains. Et là-bas, le Japon a beaucoup financé pour la construction de ces camps. Alors, je suis allé pour voir comment le fonds du Japon a été utilisé. Et deuxièmement, tout récemment, une entreprise japonaise, Panasonic, a fait le don de 400 kits solaires à ce camp. Alors, je suis allé pour faire la cérémonie de la remise de dons, de ces kits.
Vous avez préféré faire les dons des lampes solaires et non des vivres, par exemple. Est-ce qu'il y a une raison pour cela?
Des vivres minimum sont déjà fournis par des activités de HCR et ce don des kits solaires sont pour améliorer la condition de vie des réfugiés au camp. Avec ce kit solaire au centre hospitalier dans le camp, on pourrait faire l'accouchement en sécurité dans la nuit. Et comme ça, c'est un moyen de l'amélioration conditions de vie là-bas.
Vous avez visité les camps d'Inke, près de Guadeloupe, avec plus de 10 000 réfugiés centrafricains, et celui de Bili, près de Bossobolo. Qu'avez-vous constaté sur place? Quelle est la situation humanitaire de ces réfugiés?
J'ai constaté essentiellement quatre principes. Premièrement, la générosité du gouvernement local et national et le peuple congolais. Les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires ne pourraient rien faire sans compréhension et la générosité des communautés accueillantes.
Donc on vous a bien accueilli, c'est ça?
C'est ça. Et deuxièmement, au camp, j'ai bien constaté que notre fonds du Japon est utilisé vraiment efficacement. Les gens de HCR et d'autres partenaires nationaux et internationaux travaillent vraiment avec le professionnalisme. Par exemple, là-bas, l'infrastructure et les moyens de vie minimum sont fournis, mais non seulement de la fourniture, de ces moyens, ils pensent encore à la motivation pour faire l'indépendance des réfugiés, par exemple, en encourageant de faire la culture des légumes ou le reboisement ou la création de petits revenus. Et puis, il pose une grande importance sur l'harmonie et sur la cohabitation avec la communauté accueillante. Par exemple, le centre hospitalier de Caen est ouvert au public. Ils sont en train de construire une école où les enfants de la communauté de Caen peuvent fréquenter. Et puis, comme on voit dans cette introduction de ce kit solaire, on essaie toujours d'améliorer des conditions de vie. Et d'ailleurs, l'introduction de ces kits solaires sont réalisées grâce à l'initiative d'un agent japonais de HCR qui s'appelle Makiha Kimura. Voilà donc le professionnalisme de HCR et des partenaires au camp. Et troisièmement, j'ai senti toute ma compassion aux réfugiés et quatrièmement, j'ai découvert la belle province de Nord-Ubangi.
Puisque vous parlez de la situation des réfugiés, comment vous les avez trouvés, la situation humanitaire? Cette situation humanitaire s'est améliorée ou bien il reste encore beaucoup de choses à faire?
Oui, les réfugiés qui vivent déjà dans les camps, oui, ils sont bien traités et tous les besoins nécessaires minimum pour la survie sont bien fournis. Et ils sont en train d'être réconfortés, leurs forces physiques et mentales sont récupérées, et ils sont bien traités. Je ne peux pas dire heureusement, mais ils vivent tant bien que mal.
Ok. Mabushi, parlons d'autre chose maintenant. Le Japon est l'un des grands donateurs du HCR. Pouvez-vous nous parler de votre rapport aux opérations du HCR ici en République démocratique du Congo?
Oui, cette fois-ci, j'ai visité deux camps, Inke et Bili. Mais non seulement ces deux camps, le Japon est toujours conscient aux situations humanitaires en Afrique et en RDC, chaque année, on contribue toujours à HCR pour ces activités. Par exemple, en 2015, on a fait 3 millions de dollars pour les réfugiés centrafricains et burundais en Sud-Ubangi, Sud-Kivu. Et en 2014, on a fait 5 millions de dollars aux réfugiés et aux aux déplacés intérieurs au nord Kivu, au sud Kivu.
Et donc l'apport du Japon va être important ici en République démocratique du Congo, vous venez de le souligner. Mais il y a d'autres camps de réfugiés centrafricains au sud, Ubangi par exemple, à Moyabi, dans le Baoulé, à Mboti, ce sont des camps de réfugiés. Qu'est-ce que l'ACR peut attendre du Japon de ce côté-là? Et il y a aussi une situation difficile vers le sud Kivu avec les réfugiés burundais.
Oui, effectivement, nous sommes en train de voir l'augmentation des réfugiés burundais à cause de la crise là-bas. Donc, toujours beaucoup de besoins existent. Ce n'est pas seulement le Japon qui supporte les activités humanitaires. En coordination avec d'autres bailleurs, feraient tous les efforts pour supporter cette situation humanitaire.
La prochaine mission, c'est où?
Je n'ai pas encore le projet de voyage mission concrètement, mais nous sommes toujours, comme j'ai bien constaté pour cette fois-ci, et nous sommes vraiment conscients en qualité de travail de HCR.
Et pour terminer, M. Noguchi, vous avez été au barrage Mobimbongo, vous avez découvert pratiquement le nord Ubangi. Qu'est-ce qui vous a frappé?
Oui, c'était ma première visite en nord Ubangi. J'ai découvert cette province qui est riche en nature à conserver et riche en potentiel à exploiter. Et bon, la rivière de Ubangi a été tellement belle, qui ressemble vraiment à mon pays natal,
le Japon.
Oui, au Japon. Et puis j'ai discuté avec Madame le gouverneur, beaucoup de possibilités à faire la coopération.
Monsieur Naguchi, Radio Capi vous remercie.
Je vous remercie.
Le chargé d'affaires à l'ambassade du Japon en RDC vient de remettre plus de 400 lampes solaires aux réfugiés centrafricains installés au nord Ubangi. Le diplomate japonais qui vient de séjourner dans la région a encore échangé directement avec ces réfugiés, estimés à plus de 103 000, dont 71 000 personnes dans les camps du HR dans le nord de l'ex-Équateur. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Au cours de sa visite de 72 heures dans la ville de Guadeloupe et ses environs, l'ambassadeur intérimaire du Japon a procédé d'abord à la remise officielle de 410 lampes solaires. Cette assistance d'une firme japonaise, a-t-il indiqué, a pour but d'améliorer les conditions d'hébergement de ces réfugiés, notamment ceux qui sont admis dans les quatre camps du HCR à Inke et Bili dans le nord Ubangi, à Boyabo et Molé dans le sud Ubangi, ainsi que dans les différents centres de transit. L'ambassadeur Noguchi a également mis à profit sa mission pour se rendre compte du niveau d'exécution des projets ou activités financés par le gouvernement japonais au profit de ces réfugiés, ce qui explique la visite que le diplomate nippon leur a rendue jusqu'à Inke ainsi qu'à Bili dans le territoire de Bosobolo. Il a eu aussi des échanges avec les autorités locales et le nouveau gouverneur du Nord Ubangi, au bout desquels échanges, il a exprimé sa satisfaction. Enfin, les réfugiés centrafricains, qui se disent réconfortés par cette visite directe d'un bailleur de fonds, ont quand même exprimé leur désir de retourner en RCA dès la stabilisation de la situation sécuritaire dans leur pays. Ils ont encore déploré des cas de malnutrition actuellement chez les enfants par manque d'aliments. Bandaka, Porsche Malengela, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Les journalistes inquiets pour leur sécurité. Un cas survenu à Lubumbashi dans l'affaire Moïse Katumbi a suscité cette question d'un confrère.
Patrick Bouindombe pour le camp de la Radio Centrale FM. Le climat politique actuel de la République fait craindre les journalistes. Le cas le plus récent, c'est ce qui vient de se passer hier concernant également l'affaire Moïse Katumbi à Lubumbashi. Il y a l'un de nos collègues journalistes du Top Congo qui a été appréhendé par la justice ou par les agents du renseignement du pays sous prétexte qu'il soutienne Moïse Katumbi qui est accusé par la justice congolaise. On lui a soutiré de l'argent, on lui a pris son matériel, ainsi de suite. Alors cette logique du pays fait craindre les journalistes. Est-ce que la MONUSCO ou les Nations Unies ne comptent que rester dans des dénonciations ou encore il y a des mesures prises pour la sécurité des journalistes en cette période? Merci.
Suivez alors la relance de Charles Bambara, porte-parole intérimaire de la MONUSCO.
de façon globale. La MONUSCO a un mandat de protection des civils et les journalistes font partie des civils. Pour tout ce qui concerne ces violations des droits de l'homme, le Conseil de sécurité, dans la dernière résolution 2277, a rappelé aux autorités qu'elles devaient garantir l'existence des espaces non seulement politiques, mais pour exercer les libertés individuelles et collectives dans le cadre du travail, notamment de journalistes. Je pense que ce message est passé, sinon, effectivement, nous le rappellerons. Pour ce qui concerne le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, vous savez qu'ils ont un rapport mensuel dans lequel ils dénoncent, c'est vrai, les violations un peu plus générales des droits de l'homme, mais aussi les violations des droits politiques, mais aussi les violations des droits des journalistes. Ils vont continuer à le faire car ils ont un mandat pour cela. Pour ce que vous dites, est-ce qu'on va faire plus ? Ce que nous faisons plus, effectivement, c'est dans les bons offices de la MONUSCO vis-à-vis des autorités gouvernementales. Nous avons des rencontres régulières. Et je peux dire aujourd'hui, par exemple, M. Mamane Sambo Sidikou rencontre une personnalité de l'État. Et au cours de ce genre de rencontre, il aborde l'ensemble de ces questions. Et en tant que journaliste, je peux vous garantir qu'il aborde réellement et très souvent les questions liées à la profession de journalisme. Donc je peux vous assurer que c'est pas des questions que nous négligeons, que nous ignorons. Nous faisons vraiment attention à cela et nous avons d'ailleurs la section électorale de la MONUSCO qui répertorie une fois par mois toutes les violations faites à l'encontre des journalistes sur l'ensemble du territoire et le passe donc pour information au représentant spécial qui prend acte et qui essaie de voir comment agir sur le terrain.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Dominique Olombi Mungapange. Je suis marié et père d'une grande famille. J'ai commencé mes études primaires à l'école primaire catholique de Yandumbo, au secteur d'Itimiri, dans les territoires de Bumba, en 1966. C'était tout juste à la fin de la rébellion mouléliste, avant de les terminer, à l'école primaire officielle d'Ima, à côté du marché Simba Zigida, de la commune de Kinshasa à Kinshasa, en 1970. Pour le niveau secondaire, j'ai fait mon cycle d'orientation, c'était le système éducatif de l'époque, au CO4 Ngiringiri, dans la commune de Ngiringiri, de 1970 à 1972, où j'ai décroché mon brevet. Oui, je suis allé à l'Institut de la Gombe faire les humanités littéraires, une école où étudiaient à l'époque beaucoup de vedettes de la musique, telles que Papa Wemba et Voloko, Gina Wagina et le soliste Bongo Wende avec qui nous étions en troisième littéraire. C'est à l'Institut de la Gombe où j'ai obtenu mon diplôme d'État en 1977. J'ai dû attendre 4 ans avant de poursuivre mes études supérieures à l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka où j'ai terminé comme licencié agrégé en français et linguistique africaine. Je me suis intégré au journalisme par plusieurs formations. La première, c'était en 1987 à Kigali, au Rwanda. Une formation qui était organisée par la fondation allemande de Friedrich Naumann au moment où j'étais à la RTNC. Je suis à la MONUSCO Radio Okapi depuis 2002 et c'est depuis 2006 que je suis secrétaire de rédaction de Radio Okapi Mbandaka. Au moment où nous avions une rédaction complète avec 6 journalistes, dès que j'arrive au bureau, je communique et discute avec la rédaction centrale de Radio Okapi à Kinshasa le sujet à proposer, c'est-à-dire arrêter les angles et la façon dont nous allons produire ces informations. C'était plus le sujet proposé par les confrères que les miennes propres. Je devais suivre aussi la façon dont les confrères produisent des dossiers et magazines ainsi que les interviews. C'était pour vérifier s'ils respectent les standards ou la ligne éditoriale de Radio Okapi, la radio de la paix. Donner des informations équilibrées, accorder la parole à toutes les parties, respecter l'auditeur. Mes tâches quotidiennes à Mbandaka actuellement, où notre rédaction est réduite à 2 journalistes, ne consistent plus qu'à récolter les informations, à les vérifier avec différentes sources possibles, à faire des recoupements, à discuter avec la rédaction centrale de Radio Okapi à Kinshasa avant de les rédiger et enregistrer pour diffusion. Pour des informations délicates, nous discutons avec mon confrère avec qui je travaille, pour Richard Maningela, pour arrêter les stratégies, comment les traiter. Avant que je ne sois engagé à Radio Okapi MONUSCO en 2002, en ce temps la mission s'appelait MONUC, j'étais rédacteur en chef à la RTNC Mbandaka où j'ai fait mes débuts en journalisme depuis avril 1986. il n'y avait pas de radio privée comme c'est le cas aujourd'hui. Les informations que nous traitions étaient beaucoup plus institutionnelles. J'ai fait aussi la télévision. En tant que présentateur du journal à l'antenne E, antenne Ndundo, José Ndundo, celui-là même que vous connaissez, j'ai fait aussi la presse écrite, momentanément comme directeur régional de la ZAP, agence Zaïroise de presse, aujourd'hui ACP. On avait recouru à moi après le départ au Kinshasa du directeur régional de cette agence télégraphique. Comme il n'y avait aucun agent qualifié pour assumer ses fonctions, j'avais accepté de prêter ma petite expertise. Pendant mon temps libre, je m'adonne à la lecture. C'est de par ma formation. Je suis licencié en français et linguistique. Je lis beaucoup, surtout quand je sirote mon verre de bière. Pour mes préférés, cela va vous étonner. Comme je suis forestier et riverain, j'aime manger des mets préparés à base de chenilles, des termites, des escargots avec des arachides ou des courges. Pour le sport, je suis un féru du football. J'aime aussi le volleyball et l'athlétisme. Mais avec mon infirmité actuelle, puisque j'ai eu une fracture au pied gauche, je ne les pratique plus. Je me contente de suivre les compétitions à la télé. Pour la musique, mon artiste préféré, c'est celui qui vient de nous quitter, Papa Wemba. J'aime aussi la musique de Papa Lutumba Simaro Massia. J'apprécie Félix Oisé, quoi, sur qui d'ailleurs j'ai publié un article à la revue scientifique Annales à Equatoria intitulé Verbe et poéticité dans la musique de Félix Oisé, quoi. Lui-même a eu un tiré à part de ses textes que je lui ai remis quand il est venu en 2007 à Mbandaka. Voilà.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Notez que le 17 mai, ce sera la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. C'est la fin de cette édition. Bob Landou était à la technique, Jean-Pierre Elali Coco à la coordination, Honoré Missenga Kanala au reportage sous la supervision de Martin Sebujangwe. Thérèse Bassoulé était à la présentation. Vous voulez réécouter cette émission? Tapez www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc dimanche prochain. Excellente journée dominicale à tous.